Un jour, il y a eu un repas, ils appelaient ça des allumettes végétales, alors bio, hein, et là, ils s'étaient vraiment glorifiés autour du mot bio. On a pris une photo et ça ressemblait à de la pâtée pour chat. En fait, c'était un plat qui était constitué uniquement d'eau, de glucides, donc de sucre, pas de vitamines, il n'y avait pas de minéraux, il n'y avait rien. Voilà ce qu'on sert à nos enfants.
Dans notre système scolaire, 2 enfants sur 3 déjeunent au moins une fois par semaine à la cantine. Et pour la plupart, c'est évidemment beaucoup plus. Ce qui fait plus de 7 millions de clients pour la restauration scolaire. À une époque où on sait que nos modes alimentaires ont une influence déterminante sur notre santé et sur celle de la planète, on s'intéresse logiquement de plus en plus au contenu des assiettes de nos enfants. Et le bilan est contrasté. Les problèmes de quantité de repas à servir et de choix économiques faits par les collectivités locales conditionnent souvent le résultat qui est toujours le fruit d'un arbitrage.
On a créé des usines où on fait de la cuisine propre. On mange propre, mais on mange moche.
Il existe plusieurs façons d'alimenter les cantines scolaires. La concession de services publics, d'abord, où les communes délèguent leurs pouvoirs et leurs responsabilités à une entreprise de restauration collective. En France, un tiers des communes y a recours. Et 3 groupes, en concurrence féroce, dominent un marché qui, de l'école aux EHPAD, en passant par les entreprises, brasse plus de 20 milliards d'euros chaque année. Pour le reste, les communes opèrent directement. La régie directe n'est certes pas une garantie de qualité, surtout quand la quantité de repas à fournir est importante, mais elle peut aussi apporter de grandes satisfactions aux clients que sont les enfants comme aux cuisiniers qui trouvent ou retrouvent du sens à leur engagement.
Au début, je suis passé responsable. J'avais presque honte de traverser la ville dans laquelle je travaille. Maintenant, je suis fier comme un chef cuisinier.
Mais souvent, ce qui se passe en cuisine, même dans le cas d'une régie directe, c'est-à-dire d'une administration par les communes, c'est juste de l'assemblage de produits transformés. Autour de Paris, 19 villes de 5 départements composent le Siresco, syndicat intercommunal, dont les 3 cuisines fournissent plus de 40 000 repas chaque jour. Non sans provoquer d'ailleurs la critique de parents d'élèves qui ont parfois du mal à comprendre ce que leurs enfants ingurgitent exactement.
Ça vomir quoi ?
Cantine, qu'est-ce qu'on mange ? C'est un reportage de Julie Pietri.
Interception. Le magazine de reportage de France Inter.
Nous sommes à Romainville, au nord-est de Paris, département de la Seine-Saint-Denis. Ici, des parents se retrouvent ce soir pour discuter de ce qu'il y a dans l'assiette de leurs enfants. Ils viennent de plusieurs communes et évidemment, s'ils sont présents ce soir, c'est qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de ce que mangent leurs petits. Yann, Mathilde et Mathilde et Naël, vous êtes tous les 4 dans une même école à Romainville, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et vous êtes soit en CE2, soit en CM1.
C'est ça.
La cantine, ça donne quoi ?
C'est dégoûtant. Enfin, ça vomir, quoi.
Un jour, ils ont fait de l'omelette avec une poudre. C'était dégoûtant.
On aurait dit de l'éponge.
c'est quoi ces omelettes ? Enfin, je sais pas, on fait des omelettes avec des œufs.
Tu sais jamais trop ce que tu manges.
Je me dis, c'était limite gelé. On aurait dit des glaçons, la viande.
Et un jour, apparemment, il y a une école et ils ont eu des lasagnes moisies.
Oui, c'est vrai. Le groupe qui vous sert à manger a eu un problème du côté d'une ville qui s'appelle Ivry. Ils ont dû retirer un certain nombre de lasagnes qui étaient moisies, c'est vrai.
Ouais. Voilà.
Qu'est-ce que vous racontez à vos parents quand vous rentrez le soir ?
Que c'était pas bon. Souvent, je dis à maman, elle me dit « Pourquoi t'as faim comme ça ?» Je lui dis « Parce que j'ai rien mangé, parce que c'était pas bon du tout. »
Et ils vous disent quoi, vos parents, dans ces cas-là ?
Peut-être ce sera mieux la prochaine fois. Moi, je trouve que c'est pas juste. C'est pas parce qu'on est plus petit qu'on n'a pas le droit d'avoir des choses bonnes, qu'on n'a pas le droit d'avoir un cuisinier dans notre école.
Nous, on aime bien la cantine. Tous les jours, on dit, sauf le vendredi. Le vendredi, c'est le jour des sardines. Et nous, on préfère vomir des raviolis.
Alors, madame, vous êtes
Virginie.
Vous êtes la maman d'une des 2 Mathilde.
Voilà, c'est ça,
qui vient de nous répondre. Et vous, monsieur
Amar, le papa de Naël.
Est-ce que c'est facile de savoir un peu de quoi on parle ? Parce que parfois, les enfants, on se dit, voilà, s'ils n'ont pas mangé des frites, ils disent qu'ils ont mal mangé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ça
tout
aussi,
fait.
C'est pas facile de
tout
savoir.
Fait.
Je travaille dans une profession bon, qui m'amène à bon, je suis technicien et je suis amené à dépanner dans des cuisines, de collectivités et tout ça. Donc je vois un peu aussi ce qui se passe. Donc c'est vrai ce que me rapporte mon enfance. Donc c'est un peu ce que je vois aussi en coulisses. Voilà. La réalité en fait. Tout ce qu'ils ont dit les enfants. Là. Bon, moi, souvent, le gamin, il revient. Oui, c'est vrai que bon, souvent, ils ont quasi rien mangé, quoi. Mais à 4 heures, c'est pas à 4 heures qu'on leur ramène. Hein, c'est un déjeuner. Hein, voilà, c'est. Parfois, quand on leur demande qu'est-ce que vous avez mangé, il y a un blanc. Ah oui, c'était des carottes. Voilà. Donc, le c'était des carottes, j'essaie de m'imaginer un peu ce qu'il y a eu dans l'assiette. Voilà, c'était des carottes. Et oui, c'est inquiétant.
Bah, quand on nous apporte le menu, Mathilde m'apporte le menu. Graphiquement très très beau, donc on se dit en tant que parent c'est super, ils vont manger des produits bio, des voilà des légumes de saison, des fruits, etc. Et puis la réalité, on s'aperçoit effectivement en entendant les enfants que c'est pas ça du tout, c'est navrant, c'est vraiment très dur à entendre.
C'est vrai que moi le soir c'est bon, qu'est-ce que je vais leur faire, qui va leur plaire, voilà.
Dans les raviolis il y a du bœuf avec sa camisole. Des tomates qu'ont jamais vu le jour. Tout ce qui traîne au fond de la casserole.
Dans la poubelle et par terre dans la cour.
Alors bonsoir à tous. Donc moi je suis Isabelle Bretonnier, parent d'élèves et je suis cofondatrice d'un collectif citoyen qui s'appelle Pas d'usine en cuisine. À Romainville, vous le savez, on n'a pas de petite cuisine dans chaque école. En fait, on a une grosse cuisine centrale qui sert les cantines de nos enfants à Romainville. Et pour Romainville, en fait, on dépend d'une cuisine qui est à Bobigny, qui fabrique 25 000 repas par jour. Aujourd'hui, nous sommes de nombreux parents à nous questionner vraiment sur le fonctionnement d'une telle cuisine centrale de grande envergure. Donc on se pose des questions sur les conséquences que ça peut avoir sur la santé de nos enfants, les conséquences sur notre environnement, sur l'éducation alimentaire et plus concrètement sur la politique alimentaire de notre territoire. Ce soir, vous l'avez deviné, on va parler du Cirisco, mais finalement, de façon plus globale, on parle vraiment des cuisines centrales en France.
Oui, bonjour, je me nomme François Parinello, je suis élu municipal sur la ville de Romainville. Et en plus, je représente au conseil syndical du Cirisco la ville de Romainville. Je voudrais simplement dire que la volonté qu'ont eu les élus municipaux à un moment ou à un autre, c'est d'essayer de trouver des réponses à des besoins. La nourriture, le manger, le repas des enfants du scolaire. Ce qui n'est d'ailleurs pas, peu de gens que ça, ce n'est pas forcément une obligation légale. Les communes ne sont pas obligées de donner à manger aux enfants. Mais elles le font quasiment toutes, et bien entendu, toutes les communes veulent continuer à le faire. Là, aujourd'hui, le modèle industriel, il est lié aussi, dans un premier temps, à la volonté d'essayer d'apporter des réponses au grand nombre, à la massification de l'école. Pour nous, par exemple, sur la ville, c'est 2350 enfants tous les jours qui mangent, effectivement, et les familles attendent que les enfants mangent. Il y a aussi un problème de fond qui est les coûts.
On y reviendra, merci beaucoup, il y a notre réaction. On a téléchargé un document du Cirisco qui est en fait les dépenses des marchés publics. Les marchés publics du Cirisco, sur 48 mois, le budget du plastique, c'est-à-dire fourniture de matériel et de conditionnement, se monte à 1 075 800 euros. Et sur la même période, sur 48 mois, le budget fourniture de fruits et légumes frais, 475 000 euros. Je pense que je peux vous laisser réfléchir à ça. On va prendre quelques minutes pour des questions du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ou exprimer une réaction ?
François Parinello, je suis sur cette ville, Romainville, et effectivement, en tant qu'élu municipal, je représente la ville au Cirisco. Mais il s'agit d'un groupement d'élus du service public. On n'est pas dans un cadre de caractère privé.
Mais j'ai pris la responsabilité. Ce soir, on a l'impression que le Cirisco, c'est ce qui se fait pire en France, enfin, au niveau de la qualité.
C'est ce que vous avez entendu. La réalité, c'est que il y avait une pétition avec 1000 signatures, etc. Il y a 50 000 repas par jour. Donc, il y a des mécontentements. Je critique pas, je veux pas dire non plus que ces gens-là, que c'est de l'invention, c'est pas du tout ça. Mon souhait à moi, c'est de dire, on a à un moment donné fait ce choix parce qu'on considérait que c'était une bonne réponse en termes de coûts par rapport à une situation sociale donnée. On est une ville aisée au niveau de l'assiette fiscale, etc. Mais par contre, on a une petite partie de la population qui est en difficulté. Et il est hors de question qu'on laisse les gens sur le chemin. On doit effectivement être capable de prendre en charge, et il y a 25 à 30% des familles qui ont vraiment des coûts quasi zéro au niveau du repas. Et ça n'est pas non plus négligeable. On ne peut pas balayer ça en disant « je m'en fous, il n'y a qu'à mettre de l'argent, etc. » Si on décide de mettre de l'argent, ce sera de l'argent public. On pense que ça coûtera plus cher.
Ok. Je m'appelle Sandra Franc-René, je suis journaliste, j'ai écrit le livre noir des cantines scolaires et je suis maman de deux enfants scolarisés dans le 18e arrondissement de Paris.
C'est une soirée autour du Ciresco, beaucoup. Est-ce que le Ciresco, c'est le seul problème en France ?
Non, malheureusement, c'est loin d'être le seul problème. Nous, dans le 18e, c'est la Sogeres qui prépare les repas et donc qui est une filiale de la Sodexo. Voilà. Donc c'est une grosse, très grosse société de restauration collective. Donc là, on est dans le privé.
Quel est le point commun ?
C'est qu'on est sur des concentrations industrielles d'enfants. Bon, le Ciresco, c'est 42 000 repas quotidiens. Le 18e, c'est 14 000 repas quotidiens. Donc on est vraiment sur une logique industrielle d'alimentation.
Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire « nos enfants en France mangent mal » ?
Ce qu'il faut, c'est vraiment aller manger, aller y déjeuner, voir concrètement ce que ça donne au goût, voir aussi la consistance. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que les repas déjà étaient servis dans des barquettes en plastique. Au-delà de l'aspect sanitaire qui est extrêmement important, il y a aussi l'aspect visuel. Je veux dire, quand on arrive avec des barquettes réchauffées, toutes gondolées, et qu'on les sert comme ça à la louche, bah déjà, le premier abord est quand même très répulsif. Donc, il faut aller manger, et surtout ne pas se laisser embobiner par les affichages de menus et les labels qui figurent dessus. Recette façon grand-mère, ou quand on lit ça le matin vite fait, qu'on dépose son gamin parce qu'on n'a pas le temps, on jette un œil rapide et on voit un joli intitulé, on se dit ah bah ça a l'air chouette, il mange bien mon gamin, mais en fait quand on creuse, c'est extrêmement opaque. À la limite, faut presque plus, je pense, avoir confiance dans un menu qui est très simple, jambon pâte, que quand ça commence à être très alambiqué. Une chose qui est très compliquée, en tout cas nous, à obtenir, c'est avoir ce qu'on appelle les fiches techniques, c'est-à-dire les fiches nutritionnelles, pour connaître la composition des repas et voir finalement si on est face à du produit brut ou si on est face justement à des produits industriels qui sont déjà tout préparés et donc dans lesquels il n'y a que des ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas d'antioxydants. Un jour, il y a eu un repas, ils appelaient ça des allumettes végétales, alors bio, hein, et là, ils s'étaient vraiment glorifiés autour du mot bio. C'est très important le bio, mais il faut aussi faire attention au bio qu'on propose. On n'a pas été capable de comprendre ce que c'était. C'est-à-dire, on a pris une photo et ça ressemblait à de la pâtée pour chat. Et donc, on a demandé donc cette fiche nutritionnelle. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, c'était un plat qui était constitué uniquement d'eau, de glucides, donc de sucre, pas de vitamines, il n'y avait pas de minéraux, il n'y avait rien. C'est là qu'on a compris qu'il y avait un problème sanitaire qui était grave. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, ces grosses structures ne possèdent pas de légumerie, donc sont dans l'incapacité de cuisiner des produits bruts. Elles ne peuvent pas avoir de carottes, elles ne peuvent pas avoir de tomates, donc elles font venir des plats déjà tout préparés. Par exemple, nous, dans la cuisine, pour 14 000 repas, on ne peut évidemment pas faire des omelettes, des petites omelettes cuisinées, donc c'est des omelettes industrielles avec des durées de conservation, ce qu'on appelle la DLC, de 28 jours. C'est-à-dire qu'elles peuvent être servies pendant 28 jours. Donc quand ça arrive, c'est un espèce de truc spongieux dégueulasse, quoi. Et donc, pour que ça puisse tenir aussi longtemps, c'est enrobé dans des sauces qui permettent le réchauffage. Là, c'est pareil, mais il y a une liste d'additifs longs comme le bras, dont certains dont on sait qu'ils sont fortement déconseillés aux enfants. C'est marqué noir sur blanc, hein. Voilà ce qu'on sert à nos enfants.
Ça date de quand ?
Au début des années 80, quand en fait toutes les normes d'hygiène sont arrivées et qu'on a mis en place ce qu'on appelle la marche en avant. Alors la marche en avant, c'est qu'un légume terreux ne peut pas croiser un légume qui a déjà été lavé. Donc ça a demandé la mise en place de légumeries très spécifiques et puis tout un tas de normes vétérinaires, etc., qui ont complexifié la situation et qui ont fait que plein de petites cuisines n'étaient plus aux normes. Et donc progressivement, on a fermé ces petites cuisines pour créer des cuisines plus moderne, avec plein de guillemets, mais surtout des cuisines industrielles là, qui répondaient à toutes ces fameuses normes d'hygiène que les grosses sociétés de restauration collective adorent mettre en avant, parce que pour ça, elles sont très fortes.
On va discuter maintenant de la vision d'un modèle culinaire à faire évoluer avec Philippe Henné, cuisinier et paysan engagé dans le bio. Première question, quels sont les besoins humains et matériels pour cuisiner de façon saine et durable en restauration collective ?
Bon, je dirais des cuisiniers déjà. Deux personnes pour 100 repas. C'est à peu près ce qui peut se dire, mais attention. Parce qu'un cuisinier aujourd'hui doit faire beaucoup de choses. Bien souvent, il doit s'occuper aussi de l'approvisionnement, de la gestion. Le nettoyage, ça va avec. La plonge, la comptabilité, le service, l'entretien. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment prendre en compte la fiche de poste.
Combien est-ce qu'on a de cuisiniers au Ciresco ?
Non, alors ça, c'est la mauvaise question. Dans ce modèle de cuisine industrielle, parce que c'est de ça qu'on parle, on peut faire la cuisine avec 8 cuisiniers pour 20 000 couverts. Je suis loin de supporter ce qu'ils font, mais c'est un modèle de cuisine industrielle. Et en tous les cas, ce n'est pas le modèle que moi ou nous, on veut promouvoir. Donc on peut plutôt essayer de parler peut-être des solutions possibles pour pouvoir faire autre chose.
Ça marche ?
Je m'appelle Vincent Calsage, je suis père d'un petit garçon qui mange à Romainville à l'école. Si on veut continuer à avoir des coûts moindres, il y a une logique à faire respecter. On achète plus cher, on vend plus cher. Ça, ça ne changera jamais.
Est-ce que des élus seraient capables de répondre sur le point, du point de vue financier, si on passait d'une cuisine plus durable? Alors je pense qu'il y a un milliard de réponses possibles. Valérie, tu peux intervenir?
Partiellement sur le coup, Valérie Jacquier, je fais partie comme Philippe du collectif, je suis diététicienne nutritionniste, donc on travaille ensemble depuis longtemps. Tous les deux, vous avez parlé de nourrir les enfants et de donner à manger aux enfants. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, monsieur Nier aussi, c'est pas un devoir pour une commune de nourrir les enfants. Maintenant, quand on décide de le faire, on ne nourrit pas les enfants, on fait pas du nourrissage, on fait pas du remplissage d'estomac. Ça, c'est non. Et il faut aussi se concerter avec les parents. Parce que les parents ne peuvent pas non plus se dire qu'ils vont obtenir un repas correct, décent, sain, durable, à un prix de 1,80€. Ça, c'est pas possible. Il faut que chacun regarde sa part de responsabilité. On en est arrivé et on a créé des usines où on fait de la cuisine propre. On mange propre, mais on mange moche et on mange mal.
Je vous remercie beaucoup d'être venu à cette soirée. Merci beaucoup.
Jérôme Bernard Pellet, vous êtes médecin nutritionniste. Vous avez assisté à tous ces débats ce soir. Vous en tirez quoi comme conclusion ?
J'en tire comme conclusion que l'alimentation a tendance à se dégrader avec le temps. On va vers des aliments de plus en plus industriels, vers des aliments avec de plus en plus additifs. Or, le métabolisme humain a plutôt besoin de produits frais, non transformés, avec le moins d'additifs possible. Donc, je crois qu'il y a vraiment là un combat à mener. Il faut que les parents se battent pour que leurs enfants mangent bien. Sinon, ce sont les industriels qui vont dicter ce que vont manger vos enfants demain. Moi-même, je suis le président de l'APSARES, l'Association de professionnels de santé pour une alimentation responsable. Et je pense que l'alimentation, c'est un enjeu absolument majeur. On ne peut pas être en bonne santé si on ne mange pas bien.
Quel est l'impact sur la santé d'un enfant qui mangerait tous les jours à la cantine de la nourriture ultra transformée ?
Troubles de l'attention, des difficultés de mémorisation, l'hyperactivité, un enfant qui ne tient pas en place, qui n'arrive pas à se concentrer. Cela peut également induire des troubles du sommeil. Donc c'est dire l'importance de bien manger à la cantine pour un enfant.
Il y a ce que les enfants ont dans l'assiette, il y a la façon dont c'est cuisiné, c'est-à-dire avec l'utilisation de barquettes plastiques qui posent plein de questions en termes de perturbateurs endocriniens. Est-ce que là aussi, d'un point de vue médical, vous, c'est quelque chose qui vous alerte ?
Alors, je pense que c'est vraiment une erreur de faire réchauffer les plats dans des barquettes en plastique, comme on le voit de plus en plus dans les cuisines centrales. La spécificité des perturbateurs endocriniens, c'est qu'il suffit de très petites doses du produit pour avoir un effet biologique. Et donc, on voit de plus en plus chez les enfants des pubertés précoces. On voit également une explosion des cancers chez l'enfant. Donc, tout cela est vraiment problématique. Il y a un fait que personne ne peut nier, c'est qu'il y a une explosion des troubles de la fertilité. Et évidemment, c'est multifactoriel. On ne peut pas accuser uniquement les perturbateurs endocriniens. Mais on a des modèles animaux qui prouvent de manière réfutable que le lien semble quasi certain.
La cantine, c'est donc tout simplement un élément de santé publique. Et le choix du mode de gestion est bien, pour les élus, un choix politique au sens propre. Le problème, c'est qu'ils sont confrontés à des contraintes multiples. Hygiène, volonté de localiser l'approvisionnement et bien sûr coût des repas. Pour s'en affranchir, 30% des maires ont donc décidé de concéder l'alimentation des enfants de leurs administrés à l'une des trois grandes sociétés de restauration collective. Ils gardent néanmoins le pouvoir par le biais du cahier des charges qu'ils doivent imposer à ces sociétés. Budget, bien sûr, mais aussi pourcentage de produits bio ou locaux, par exemple.
Enchanté, monsieur Boulon, le directeur de la cuisine.
On retrouve Julie Pietri en Provence, dans une commune qui fait appel à une de ces sociétés.
Interception sur France Inter.
Parmi les trois grandes sociétés de restauration collective qui dominent le marché en France, une seule a accepté de nous faire pénétrer dans l'une de ses cuisines centrales. C'est Scolarest, qu'on passe. Et là, nous sommes à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, devant un immense hangar.
Celle-là, je vais la mettre à côté parce que c'est de la quatrième gamme. On va la mettre au frais. On a les carottes bio et les melons bio qui arrivent. Donc là, on vient de finaliser la réception.
Donc là, vous avez mis des melons, de la viande en chambre froide.
On a rangé en fonction des produits, en fonction de leur température définie. C'est-à-dire qu'on a rangé les melons dans une chambre froide qui est aux alentours des 9-10 degrés pour ne pas les brusquer en température. Et tout ce qui est carottes, qui sont des carottes fraîches mais qui sont déjà pelées, demandent une température un peu plus faible. Donc elles sont rangées dans une autre chambre froide.
Qu'est-ce que ça veut dire quatrième gamme, vous disiez?
La quatrième gamme, c'est justement tous les produits comme les carottes que l'on reçoit déjà pelés pour éviter la problématique des produits terreux, mais qui sont des produits frais malgré tout.
Donc ça se présente comme des grands sachets sous plastique avec des carottes qui sont propres.
Qui sont des carottes entières, mais simplement pelées. Donc là, on va vous faire vivre la vie des marchandises. Donc on va commencer par l'arrivée des marchandises jusqu'au départ des produits terminés.
Donc là, on voit, il y a des chariots élévateurs avec des palettes de melons.
Voilà. Au niveau du bio, on a 50% de fruits et légumes bio qui doivent être servis aux enfants. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on a reçu des carottes bio. Là, des melons bio.
Donc, les sociétés de restauration collective peuvent faire du bio aussi?
Oui, du bio et du frais.
Comment vous expliquez que, parfois, les sociétés de restauration collective ont mauvaise réputation?
Tout dépend du budget qui nous est alloué pour pouvoir travailler. Nous, on se doit de respecter le contrat qui nous lie avec le client, avec tous les critères qu'il nous a imposés. Sur Vitrol, on a un cahier des charges qui est très rigoureux, qui nous impose beaucoup de critères de qualité, que ce soit sur le bio, où on a le pain artisanal bio tous les jours. On a un produit bio tous les jours, qui est parfois de la viande, du poisson, des légumes, etc. Et un repas qu'on fait en bio intégralement une fois par mois. Donc, ce qui fait à peu près 30% de la prestation tout en bio. Derrière, on a une imposition aussi particulière sur Vitreux, c'est qu'on a toutes nos viandes qui sont françaises et label rouge.
Vous servez des repas à combien d'enfants?
2900 enfants sur les établissements élémentaires et maternels, une structure moyenne. Par ici, donc là, vous allez remettre une blouse.
Donc nous allons revêtir une sorte de charmante blouse en plastique. L'hygiène, c'est un argument que vous mettez en avant quand vous répondez à des appels d'offres?
Ça fait partie de nos basiques, hein, hygiène, qualité, et qui permet de garantir la santé.
Isabelle Monnet, vous avez rejoint. Vous êtes la directrice générale de Scolares.
Tout à fait.
C'est la marque Compass pour la restauration scolaire.
On poursuit le cheminement. Là, on arrive dans la zone de cuisine, où là, vous pouvez voir derrière vous, vous avez trois fours. Et de l'autre côté, toutes les sauteuses qui sont en fait les grosses casseroles de la maison, dans laquelle on va faire mijoter tous les plats.
Vous imaginez, c'est des bacs énormes en fait.
Voilà, des grandes baignoires. Ouais.
Est-ce qu'on peut aller voir la partie mise en barquette?
Bien sûr. Donc on va se mettre sur le côté pour ne pas gêner les opérateurs.
Donc là par exemple, c'est du riz qui est mis dans une petite barquette individuelle.
Oui, donc l'opérateur met la bonne quantité dans la barquette. Elle est fermée et elle va rentrer dans un tunnel de refroidissement rapide qui va nous permettre d'abaisser la température de 70 degrés à moins de 10 degrés en moins de 2 heures.
Parmi les critiques qui sont faites parfois aux sociétés de restauration collective, et pas que, il y a la mise en barquette plastique. Avec les variations de température, on fait tout d'un coup une mise à froid, on réchauffe, froid, chaud, froid, chaud, avec des risques de migration de substances dans les plats. D'ailleurs, aujourd'hui, les plastiques vont être interdits, les barquettes plastiques, les contenants plastiques vont être interdits d'ici 2025.
Tout à fait. On est en train de déployer deux solutions pour faire disparaître les plastiques au sein de nos cuisines centrales. Une solution en barquette fibre et une autre solution aussi qui est celle du bac gastronorme en inox. Et parfois privilégié parce que l'inox est une matière inerte.
Quels sont les avantages de ces barquettes en plastique?
On les avait choisies parce que c'était le seul produit qui existait sur le marché à l'époque. Le risque n'avait pas été détecté.
Vous savez que vos concurrents n'ont pas accepté de nous recevoir dans leur cuisine centrale. Pourquoi nous avoir emmenés ici?
Nous, déjà, on n'a rien à cacher. C'est pas parce qu'on est en cuisine centrale qu'il y a des produits industriels.
Je crois qu'ici, c'est assez, il y a un cahier des charges qui est très, très strict et tout ça.
Très qualitatif, oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où le cahier des charges est moins exigeant, où vous avez moins d'argent et que du coup, les produits sont plus industriels, etc. Honnêtement. Alors,
tout dépend aussi de la façon dont la recette va être faite. Du moment qu'un produit il est cuisiné avec le bon matériel, les bonnes techniques et les bonnes personnes, ça va être différent en termes de matières premières, mais la recette sera tout aussi savoureuse. On n'est pas obligé de faire de l'industriel quand on ne peut pas faire du label rouge. Je pense qu'entre deux, il y a beaucoup de possibilités et en maîtrisant un coût qui peut correspondre à ce qu'attend une commune.
Est-ce que tout part de la volonté municipale ? Est-ce que c'est le point névralgique ?
Oui.
Arrivés sur le site d'une école, de Vitrolles. Et les barquettes en plastique que nous avons vues tout à l'heure dans la cuisine centrale viennent d'arriver. Donc là, elles sont disposées dans des grands frigos.
Monsieur le maire.
En forme.
En forme.
Vous allez bien ?
Bonjour, très bien, vous.
Ça va ?
C'est quoi le menu aujourd'hui ?
Alors, c'est des pâtes, bolognaise. Et l'entrée, c'est quoi ?
Souffleur et betterave.
Chou-fleur et betterave.
Monsieur.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'on peut se trouver un coin un peu tranquille avant l'arrivée des enfants ? On se disait peut-être là-bas.
Alors là-bas, ils ont dressé la table.
Là, on sera au calme.
Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ?
Bien sûr, Loïc Gachon, maire de Vitrolles, Bouches-du-Rhône.
Pourquoi avoir décidé de faire appel à une société de restauration collective ?
Alors, quand le choix se fait à Vitrolles, donc on est au début des années 90, et on est confronté à une augmentation très rapide des normes, un déficit de compétences également, puisqu'il est difficile de trouver des cuisiniers, et un difficile approvisionnement, sachant qu'on a à Vitrolles 18 sites de restauration qu'il faut livrer tous les jours. Ça fait une production colossale. La ville était confrontée à une vraie difficulté pour produire et continuer à produire avec un niveau d'exigence homogène sur tous ces sites de production, une restauration de qualité.
C'est rassurant ?
Bah, oui, il y a un côté rassurant parce que la responsabilité de la restauration, elle est transférée. Alors le délégataire assume directement toute la sécurité sanitaire de la production alimentaire.
Les sociétés de restauration collective, elles ont souvent mauvaise presse.
Pour moi, ça, c'est clairement un raccourci. Je pense qu'on peut faire de la très mauvaise cuisine en gestion directe. Ça dépend.
Quand la mairie garde la main.
Quand la mairie, mais on le voit sur des endroits, alors dans le secondaire, dans les collèges et les lycées, il y a encore souvent de la gestion directe. La qualité de ce qui est mis dans l'assiette est extrêmement variable. Et elle dépend de deux choses principales. Quelle est la qualité des denrées alimentaires et la fabrication. C'est-à-dire le talent, quelque part, de l'équipe de cuisine qui va préparer les repas. Le premier point, l'achat des denrées, il est totalement sous maîtrise des collectivités, qu'elles soient en délégation de service public, en gestion directe, quel que soit le système qu'on mette en place, c'est la collectivité qui décide, dans le cahier des charges de la fameuse délégation de service public, dans le cahier des charges de ce marché. Et nous, en l'occurrence, on a mis des niveaux d'exigence qui sont très élevés, notamment sur la qualité des viandes qui sont servies aux enfants, limitation très forte d'aliments que les enfants adorent, mais qui sont pas franchement des références en termes de qualité nutritive. Je pense aux nuggets de poulet, ou aux steaks hachés, ou des choses comme ça, que nous réduisons dans le cahier des charges à des quantités extrêmement faibles. Et on a, nous, des retours à faire en direction de Scolares si on n'est pas content d'une préparation pour que l'entreprise corrige le tir. Quand parfois, on a des choses qui sont un petit peu trop industriel, parce que ça arrive. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Quand on produit 3-4 000 repas par jour, le roast beef, il va être cuit de manière massive. C'est pas le petit roast beef qu'on va surveiller toutes les 5 minutes dans sa cocotte et s'assurer, avec le petit thermomètre à cœur, qu'il est juste parfait. Malheureusement, ça n'est pas à la portée d'une cuisine qui réalise 3-4 000 rations par jour.
Si vous décidiez à l'avenir de passer à encore plus de bio et encore plus de local, ce serait possible ?
Alors, le local vitrolais ne permettrait pas de fournir la restauration collective vitrolaise. Il y a un tel écart entre les surfaces agricoles à Vitrolles et les besoins alimentaires que ça ne serait pas possible. Mais si on fait juste un petit zoom arrière en regardant la réalité de l'agriculture sur le département des Bouches-du-Rhône, il y a évidemment aucun problème. On peut donc monter les curseurs.
Il y a un mouvement en ce moment de certaines associations. Ils aimeraient bien qu'on revienne à quelque chose de chaque école à sa cuisine, avec des petits plats, faits maison en fait, à chaque fois localement. Ça vous paraît abordable ou c'est trop complexe?
Pour nous, à Vitrolles, parce qu'on fait le choix de petites écoles, et c'est une vraie qualité éducative que d'avoir ces petites écoles. Mais du coup, il faudrait une cuisine dans chaque école. Ça veut dire un cuisinier dans chaque école. Ça veut dire un équipement de préparation dans chaque école. La livraison de denrées tous les matins dans chaque école. Clairement, ça n'est pas abordable pour Vitrolles.
Et qu'est-ce que c'est ça ?
Le pain.
Et qu'est-ce qu'on fait avec le pain ?
On fait comme ça.
On pousse avec le pain.
Oui.
Vous êtes là pour aider les enfants à manger. Donc vous êtes
assise avec
eux.
À table avec les enfants.
Et alors, est-ce que c'est bon ce que vous mangez ?
C'est bon les betteraves, Kélia ?
Oui.
Oui ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Maman, on prend comme ça, s'il te plaît.
Comment ça s'appelle, ça ?
Betterave.
Et aujourd'hui, il y a des pâtes à la bolognaise. Est-ce que vous aimez les spaghettis ?
Oui.
Oui ?
Ils terminent leurs assiettes ?
Oui. Aujourd'hui, oui, c'est toujours pareil, ça n'est pas mais... des plats.
T'en veux plus ?
Allez, donne-moi ton assiette. Hop, on va la vider.
Là, on est dans la cantine de cette école de Vitrolles. D'un côté, les petits qui sont aidés par des ATSEM. Et de l'autre, les plus grands. On le voit, ils sont seuls avec leur plateau.
Vous ne prenez pas d'entrée, les enfants ? Vous attendez les betteraves. Il en reste des betteraves ?
Non,
Joël.
Ils finissent avec ça.
Ah ben voilà, il n'y a plus de betteraves.
Et Madeleine, je veux que des pâtes avec du râpé. Merci.
De rien. Bon appétit.
Merci.
Interception sur France Inter.
Fortes de leur pouvoir de décision, certaines communes font d'autres choix que celui de la délégation. Il est bon de le rappeler en cette saison d'élections municipales, car ces choix sont, on l'a vu, éminemment politiques. Et comme le pire n'est jamais sûr, il arrive que des producteurs locaux, parfois bio, en se regroupant, parviennent à convaincre les collectivités de faire le pari de la qualité. Pour Interception, Julie Pietri a continué sa route pour tenter de répondre à la question « Cantine, qu'est-ce qu'on mange ?»
Nous avons quitté Vitrolles pour les montagnes de l'Isère. Nous sommes au cœur de la ferme de Saint-Plus. C'est une petite exploitation entourée de collines, de troupeaux de vaches, de sapins, de prairies. Et nous sommes ici pour rencontrer Vincent Rosé.
Eh bien, bienvenue.
Merci.
Vincent Rosé, c'est un producteur. Il produit du lait qu'il transforme, yaourt, fromage. Il produit du pain, il fabrique du pain aussi. Mais c'est aussi le cofondateur de Manger Bio Isère. C'est un collectif de producteurs locaux qui s'attaque au marché de la restauration collective, notamment les cantines scolaires.
Donc là, c'est le bâtiment de transformation où il y a une première partie avec le fournil, la boulange et la fromagerie juste derrière.
Bonjour.
Donc on est exclusivement en agriculture biologique et ça c'est un pain qui est fait avec des farines semi-complètes obtenues à la meule de pierre qui sont au levain, qu'on pétrit à la main et qu'on cuit au feu de bois. D'ailleurs ils vont en enfourner là, du pain de petite épaule.
Vous avez quel retour alors du collège que vous livrez en pain ?
Oh ben nous, ça fait peut-être 15 ans qu'on livre le collège de Lamure. Donc on a un partenariat très très proche. Moi, quand je vais voir des sociétés de restauration qui me disent « Vous n'allez pas voir mes clients ?» Attendez, vos clients, c'est vos clients aujourd'hui, mais dans 2 ans, ce sera Elior, ce sera Sodexo, ce sera quelqu'un d'autre. Moi, je serai toujours là et eux seront toujours là. Donc moi, j'ai ma relation avec vos clients si je veux. Parce que forcément, on est des acteurs du terrain et c'est nous qui allons faire que les choses bougent. C'est important de ne pas se laisser dicter, parce que sinon, ils arrivent un petit peu des fois en disant « On va imposer notre façon de faire, notre façon de voir. »
Les sociétés de restauration collective,
ouais. Ils ont un système assez opaque d'habillage des prix et ils n'aiment pas trop que ça se sache auprès de leurs clients donneurs d'ordre. Bien souvent, ils interdisent aux fournisseurs d'aller voir directement les donneurs d'ordre, de communiquer sur leurs pratiques, parce que nous, on sait bien, vu qu'ils habillent nos prix, on sait bien comment ça se passe.
Ils habillent vos prix ? Ça veut dire que...
Ça veut dire que, par exemple, ils vont nous dire « Votre produit, il vaut 100, mais vous allez me le facturer 120. Moi, Manger Bio-Isère, je vais vendre 120 au site de restauration en région, alors que je demandais que 100, et je vais payer 20 au siège. Donc moi, j'ai mes 100, je suis content. Mais il y a quand même une idée, c'est que le donneur d'ordre, au départ, il croit que les produits ont coûté 120. C'est une façon de ramener de l'argent au siège là-haut. C'est pas du tout clair. Ici, on est à 1150 mètres d'altitude.
Elles sont impressionnantes, les montagnes autour, là. C'est très pentu.
Oui.
Alors, les vaches, tout à l'heure, on a l'impression qu'elles étaient presque en équilibre,
ouais,
tellement c'est pentu.
C'est marrant, hein. Est-ce qu'on amène des chaises, on s'installe là? Est-ce qu'on s'assied par terre comme tu...
Moi, ça me va, par terre. Bah,
moi aussi.
Vincent Rosé, vous êtes donc cofondateur de Manger Bio Isère et producteur. Vous avez lancé Manger Bio Isère quand ?
En 2005, j'avais un frère qui faisait du pain et qui m'avait dit « Ah, c'est super, moi je livre des cantines toutes les semaines ». Je me suis dit que c'était une opportunité aussi pour les produits isérois que de pouvoir fournir la restauration collective.
C'est un beau marché, la restauration collective, les cantines scolaires notamment ?
C'est en effet un débouché de plus pour la production locale. Très souvent, le prix d'un produit bio est plus élevé que le prix d'un produit conventionnel. Toutefois, c'est assez contre-intuitif. Les statistiques montrent que sur l'ensemble des sites français qui introduisent déjà 20% de bio dans leur repas, ils ont le même prix de revient matière première. C'est-à-dire que ça ne leur coûte pas plus cher d'acheter les produits quand ils ont introduit 20% de produits bio. Et ça s'explique parce que parallèlement à cette introduction du bio, ils ont agi sur d'autres facteurs, et notamment d'introduire des repas végétariens de temps en temps, qui a bien souvent un prix de revient bien inférieur à un repas où il y a de la viande. On peut également jouer sur le gaspillage. En moyenne, en restauration collective, c'est de l'ordre de 25 à 30% des repas servis aux enfants qui partent directement à la poubelle. Donc si on arrive à diminuer ce gaspillage de un quart ou de moitié, c'est une source d'économie qu'on peut remettre dans l'achat de matières premières un peu plus nobles.
Avoir une structure comme Manger Bio, Manger Bio Isère, est-ce que ça vous permet d'arriver aussi en position de force pour répondre à des appels d'offres, par exemple, des collectivités locales, des mairies ?
Nous, paysans individuels isolés dans nos campagnes, on ne peut pas se permettre de répondre à des appels d'offres. Par rapport à la quantité, par rapport à la régularité de livraison et par rapport à la capacité logistique, quel paysan aujourd'hui peut livrer tous les collèges du département ? Aucun. Pour comprendre comment ça fonctionne, il y a donc un réseau de 70 fournisseurs, producteurs et transformateurs qui approvisionnent la plateforme Manger Bio Isère. Et donc à Manger Bio Isère, on est capable de livrer plus de 200 sites. C'est beaucoup.
Nous sommes maintenant à Pont-de-Clé, pas très loin de Grenoble, c'est dans l'agglomération de Grenoble, une ville de 10 000 habitants environ, plutôt populaire, qui s'est fondée sur sa plateforme chimique. Et si nous sommes ici, c'est parce que Pont-de-Clé fait partie de ces villes qui ont fait le choix de travailler avec Manger Bio Isère et donc d'introduire plus de local, plus de bio aussi, dans les menus des enfants de la ville. Près de 700 repas sont servis ici chaque jour.
Christophe Ferrari, je suis maire de Pont-de-Clé et président de la métropole grenobloise.
Pourquoi ne pas avoir fait le choix ici du partenariat avec une société de restauration collective ?
Il fallait sortir d'une forme de ronron et de facilité. Il faut vraiment du lien. Aujourd'hui, travailler avec les producteurs, organiser notamment autour du bio, travailler avec nos commerçants locaux, c'est respecter des métiers. Ils sont pour certains à des prix un peu plus élevés, mais on peut l'assumer, évidemment, parce que tout simplement, c'est le vrai coût. C'est le vrai coût réel du travail derrière. Donc on est dans un vrai cercle vertueux d'une économie qui est au service du territoire et d'un territoire qui est au service de son économie territoriale. L'idée, c'est de pas faire des repas pas chers, c'est d'avoir des bons produits. Et nous, on compense, et c'est le rôle d'un service public que d'assumer finalement une part importante de façon à le rendre économiquement acceptable, en fait. Si on regarde ce qui est payé par les plus bas quotients, on a un système en quotient, on est à 1 € le repas. Puis voilà. Et puis, pour nous, ça a été vraiment un vrai sujet. La restauration, c'est du plaisir. On doit manger par plaisir. Quand les parents nous disent « à la maison, ils ne mangent pas ce légume » ou « enfin, jamais j'aurais pensé que vous auriez pu faire manger des poireaux à mon fils, quoi. » Et là, en fait, c'est tout gagné, quoi. La nourriture, c'est un apprentissage. C'est une initiation, en fait. La nourriture, c'est une part essentielle du voyage. Donc, on fait le plus possible de produits maison et on avance, même dans les desserts. On a toujours un peu des problèmes sur les entrées chaudes. Pizza, des choses comme ça, enfin toutes ces choses-là où on a encore du travail à faire. Mais en tout cas, on veut finalement bannir tout ce qui est un peu industriel. Et en plus, ça éclate complètement les cuisiniers de se dire de fabriquer des gâteaux au chocolat pour tous les enfants des écoles. C'est juste génial, une mousse au chocolat pour tous les enfants. C'est quand même mieux que de sortir ça d'un pot ou d'un grand bidon, quoi.
On est dans une année d'élection municipale. C'est le moment, là, de faire pression sur son maire ?
C'est le meilleur moment pour faire pression sur ma mère.
Bonjour.
Ben alors ?
C'est quoi ?
10h30.
On nous avait dit 11h ?
Ah ben, oh, c'est pas bien.
C'est vous le chef, le fameux chef ?
Ça se voit ou pas ?
Ben, je crois que j'ai deviné.
France Inter, ça.
Ben, en fait, j'ai tout de suite deviné parce qu'on m'avait dit que vous allez rencontrer Alain Barré. C'est un personnage.
Voilà. Bon, des Julie Pétri qui vient. Mais putain, c'est la vraie ou pas?
Moi, je suis une vraie aussi.
Mais c'est vrai.
Ah oui, d'accord. Râleur, zone dangereuse.
Ah ouais, tout.
Ici, on est chiant de mauvaise foi, de mauvaise humeur. À Maurice Tépané. Alain Barré, donc vous êtes chef ici, dans cette cuisine centrale. Est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années?
Oui, on a vu beaucoup d'évolutions. Matérielle, professionnelle, et puis la manière de s'alimenter. Et puis tant mieux.
Pourquoi tant mieux ?
Tant mieux parce que j'en avais marre de manger de la nourriture industrielle et de faire manger ça à nos enfants. Quand j'ai choisi ce métier, je vous avoue que c'était pour faire de la bonne bouffe. Après, en rentrant en collectivité, on s'est aperçu que les industriels se sont mis là-dedans et la façon de travailler ne me convenait plus. La purée, c'était bien entendu la purée en flocons avec de l'eau. Maintenant, c'est des vraies pommes de terre.
Quand vous faisiez manger ça à nos enfants, comme vous dites, c'était il y a combien de temps ?
Ben, ça remonte à 30 ans. Au début, je suis passé responsable. J'avais presque honte de traverser la ville dans laquelle je travaille. Maintenant, je suis fier comme un chef cuisinier. Je monte les épaules.
Quand est-ce que ça commence à bouger vraiment fort ?
Ah, ça commençait à bouger en 2008, quand cette équipe municipale s'est mise en place. Et nous, on a joué le jeu.
Comment vous l'avez pris au tout début ?
J'ai eu très peur. La cuisine bio me faisait peur. Pour le prix, pour où s'alimenter, où trouver les produits, comment les travailler. Parce que pour moi, c'était de l'inconnu. Je partais dans l'inconnu avec le bio. On a commencé, pour être honnête, qu'avec les yaourts. Parce que c'était trop facile. Et puis petit à petit, manger bio, c'est un... Ils venaient se présenter. On a commencé à travailler gentiment avec eux. Ils m'épluchent les légumes bio pour faciliter la tâche de mes agents. Parce que les produits bruts, c'est quelque chose à éplucher.
Vous avez un budget plus important maintenant que vous êtes en bio qu'avant ou...
Absolument pas, non, il n'est pas plus important, c'est le même qu'avant. En fait, le bio fait peur par son prix, c'est pas forcément vrai. Il y a quelques années, pour faire un bœuf bourguignon pour 700 personnes, j'ai acheté 120 kg de viande brute. Maintenant, il m'en faut 80. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'eau dans l'assiette, il n'y a plus de gras, les enfants ils mangent ça avec bonheur.
Dans quelques instants, là, il va y avoir une animation autour du fromage avec les enfants.
Pour essayer de donner le goût du vrai fromage, entre guillemets, aux enfants.
Ça, c'est un bleu du Vercors. Ça se nage. Le Vercors, c'est où ? Vous savez où c'est, le Vercors ?
Non, mais moi, je suis déjà allée me promener là-bas.
Le Vercors, c'est la montagne que vous avez juste là. Est-ce que tu l'as déjà goûté ?
Jamais de ma vie entière.
Jamais de ta vie entière. Et tu l'as jamais goûté ? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas envie de le goûter ? Parce qu'il a une couleur bizarre ?
Oui.
Oh, qu'est-ce que c'est que ce fromage de couleur bleue ? Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Alors, aujourd'hui... Alors, tout ça, c'est du fromage de vache. Est-ce que vous avez une idée de comment c'est fait ?
Le bleu, c'est la pourriture.
Alors ouais, c'est un champignon qu'on peut apparenter à de la moisissure. Alors c'est un peu étrange de se dire je mange du moisi.
Mais ça va pas mourir.
Tu l'as goûté?
Bah oui.
Qu'est-ce que t'en penses?
Non. Oui, ça va.
Bonjour monsieur. Pourquoi vous m'attrapez la main comme ça?
Tu t'as dit du bien du fromage.
Bonjour monsieur.
Bonjour jeune homme.
Qu'est-ce que fait le chef comme ça, en dehors de ses cuisines, au contact des enfants?
Le chef, il vient prendre connaissance du repas du midi. Ah, il y a quelques années, je n'osais même pas traverser la salle. Là, maintenant, vous êtes rendu compte par vous-même, Master Chef.
Cantine, qu'est-ce qu'on mange? C'était un reportage de Julie Pietri. Prise de son Yves Lehors et Georges Thau, mixage Guillaume Ledu. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. La semaine prochaine, nous vous emmènerons en Irak.
Il y a par exemple ici, alors les murs, les façades sont brûlées, il n'y a plus une vitre. Les livres, la connaissance, tout ça était des choses particulièrement visées par Daesh.
Oui, avant qu'ils soient, c'est-à-dire bombardés par les forces de coalition.
Aurélien Colli et Eric Audra sont allés assister au début de la reconstruction de Mossoul.